Alors, bonsoir et bienvenue à Edna Rencontre, une émission qui valorise et outille la deuxième génération d'immigrants vers une bonne santé globale, avec votre animatrice Edna Lenéus. Vous m'excuserez ce soir, j'ai une voix un peu enrouée parce que je termine une grippe, donc désolée pour cela. Pour vous accueillir, voici la pensée du jour. Écouter est une politesse qu'un homme d'esprit fait, souvent à un sot que celui-ci ne lui rend jamais. Alors, je le répète, écouter est une politesse qu'un homme d'esprit fait souvent à un sot que celui-ci ne lui rend jamais. Et l'auteur est Adrien de Courcelles. Je trouve que cette citation représente bien l'ensemble des ouvrages de notre invité d'aujourd'hui envers les leaders du monde libre, tels que mentionnés sur son site web. Chère communauté, comme à chaque semaine, nous avons une pensée du jour, de la musique de diverses cultures, en français et dans d'autres langues, qui nous ramènera dans la nostalgie de notre enfance. Et aussi des invités en ligne ou en personne pour traiter de thèmes essentiels à notre communauté. Le tout parsemé d'anecdotes, de rires et peut-être de larmes. C'est notre première semaine sur le sujet des relations, toujours sous la bannière de l'écoute de soi et des autres. Les défis relationnels entre les hommes et les femmes ne datent pas d'hier. Mais où en sommes-nous en 2024? Avec la technologie et les réseaux sociaux, on ne sait plus où donner de la tête en termes de ce qu'est une relation saine entre ces deux sexes. À Edna Rencontre, nous voulons prendre du recul et comprendre les raisons derrière nos comportements afin de prendre nos responsabilités et d'agir autrement pour vivre autrement. Nous avons l'opportunité aujourd'hui d'échanger sur le sujet avec un sociologue de renom que j'ai pendant longtemps souhaité rencontrer et surtout interviewer. La première fois que j'ai vu notre invité, c'était en ligne dans le cadre de mon travail et je me suis dit, qui est cet homme pour qu'il soit en mesure de dire la vérité dans la position qu'il occupe? Je dois le rencontrer et voilà qu'après 3 ans, nous avons l'honneur de l'avoir avec nous à la radio. Alors pour en savoir plus, restez avec nous. Restez des nôtres. Si vous avez apprécié les émissions jusqu'à maintenant, le contenu de nos émissions, abonnez-vous dès aujourd'hui sur nos autres plateformes, soit Instagram, YouTube et Facebook, afin de ne rien manquer et de nous communiquer si cette émission vous touche et rencontre des besoins. Nous sommes heureuses de vous entendre et de vous lire à Kaira et moi. Avant d'accueillir notre invité, nous allons faire une pause musicale.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi.
Le midi, ils se sont quittés au bord du matin.
Sur l'autoroute des vacances,
c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le midi.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui.
Alors c'était Une belle histoire de Michel Fugain. Communauté, nous vous présentons Frédéric Boiron. Avant, je vais vous lire une courte biographie. Alors, Frédéric Boiron est un sociologue québécois d'origine haïtienne qui a enseigné au Cégep Bois de Boulogne et à l'Université McGill. Il intervient régulièrement sur la première chaîne de Radio-Canada, dans la presse écrite et sur les médias sociaux. C'est dans la sociologie de l'action qu'il se sent le plus efficace. En 2015, il a publié « Au nom du peuple » et du fric et du Saint-Esprit. En 2017, ferme les yeux, ouvre la bouche, avale. En 2020, il fait paraître inconduite, tweets et autres bullshit d'une élite en faillite. Ses trois livres portent sur l'état de la démocratie dans le monde. Il dit ce qui suit. Avec de tels titres, vous pouvez deviner que j'analyse les faits. Je prends position, j'identifie les malandrins, je déboulonne les vauriens et j'épingle les malfrats un voyou à la fois. Ça me fait rire parce que je trouve tellement que c'est de l'authenticité pure. Il a publié une centaine de textes sur son blog, dont plusieurs ont été repris sur les grands médias, des agences de presse, des médias communautaires et des magazines spécialisés. En 2018, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec a confirmé que tous ses écrits feront partie intégrante du patrimoine parce qu'ils sont représentatifs de la société québécoise à ce moment de son histoire. Frédéric Boiron, un personnage décapant, un auteur percutant et un sociologue plus infréquentable que jamais. Alors bonsoir et bienvenue Frédéric.
Merci beaucoup, merci de l'invitation, je suis très content d'être là. Je dois avant tout déclamer que je reconnais qu'un micro est une arme plus puissante qu'un kalachnikov. Alors j'assume la responsabilité de l'utiliser de façon consciencieuse et de ne pas mettre qui que ce soit en péril.
Merci voilà. Beaucoup. Mais qu'est-ce qu'un kalachnikov?
C'est une arme de guerre.
Wow, merci. Alors, je suis vraiment heureuse de vous avoir sur dans notre émission parce que, comme je disais tantôt, c'était un rêve pour moi. Quand je vous ai rencontré la première fois, c'était en ligne et j'étais comme, qui est cet homme? Et voilà que la vie nous a permis d'être ensemble. Et voilà, je suis un peu nerveuse ce soir, plus que d'habitude.
Mais il n'y a pas de quoi, Je suis un gars bien ordinaire.
Oui, je comprends. Mais tu sais qu'on rencontre une star, tu sais. Donc, Akaira et moi, on est très heureuses que tu sois à notre émission, comme je disais tantôt. Et faute de temps en passant, communauté, je n'ai pas dit tout ce qu'il a accompli, mais vous pouvez aller voir sur son site. Je vais seulement le mentionner une fois ici. frédéricboiron.com, très simple. Frédéric Boiron. Boiron, c'est BOIS-RON-D.com. Vous allez voir tout ce qu'il a pu accomplir, que je n'ai pas pu citer parce que c'était long et très impressionnant. Donc, allons avec le vif de notre sujet de ce soir. D'un point de vue social, où en sommes-nous dans nos relations entre les hommes et les femmes lorsqu'on pense à la relation de couple en 2024?
Le monde est en train de changer à une vitesse grand V et il y a des choses sur lesquelles on ne réfléchit plus de la même manière. Je suis en train de faire des recherches justement sur le devoir conjugal. Alors, c'était quand même une expression qu'on utilisait, le devoir conjugal, mais plus souvent pour la femme que pour l'homme. Mm-hmm. Et comme il y a une obligation pour la femme de satisfaire son homme, sexuellement, on s'entend. Mm-hmm. Et le devoir conjugal allait aussi au fait que c'est elle qui prend soin de la famille, qui prend soin des enfants, et tout ça fait partie de ce devoir conjugal. Là, aujourd'hui, on se rend compte que... On ne réfléchit plus de cette façon-là. C'est-à-dire que des gens que j'espère, que je suppose qui réfléchissent différemment ne parlent plus de ça. Donc, il y a des choses dans nos vocabulaires qui sont qu'on est en train d'évacuer. Il y a des choses qu'on ne dit plus. Quand j'enseignais la sociologie au cégep, j'enseignais le cours de sociologie de la famille et je disais à mes étudiantes et à mes étudiants, mais pensez-vous qu'une relation sérieuse, solide, qui a une probabilité de durer dans le temps, doit être conçue sur l'amour?
Oui.
Mais non, Edna.
OK.
L'amour est un sentiment éphémère. Il va finir par disparaître. Donc, on ne peut pas construire sur l'amour. Donc, déjà là, de penser que parce qu'on s'aime, que ça va nous amener plus loin, c'est très joli dans les chansons. Hein? C'est très joli dans les chansons de Céline Dion, c'est très joli dans les chansons de Lionel Richie et tout ça, mais c'est une absurdité en soi.
D'accord?
En réalité, c'est que le rapport de couple est d'abord et avant tout une relation d'affaires. Rien d'autre. Bon. Et c'est une relation d'affaires au point que, au Québec présentement et ailleurs dans le monde, il y a des contrats de mariage. Tout le monde est au courant. Il y a un contrat implicite quand on se marie au Québec qui s'appelle le patrimoine familial. Qu'est-ce que ça prévoit? Ça prévoit qu'au moment du divorce, eh bien, vous allez séparer tout ce que vous avez acquis en commun pendant le mariage. Donc, ça veut dire que si vous aviez des biens avant, ça ne compte pas, mais tout ce que vous allez acquérir pendant le mariage, vous devez le partager à part égale.
Oui.
Donc, tous ces contrats-là, que ce soit la société d'acquis, etc., etc., le patrimoine familial, qu'on appelle des contrats de mariage, ne sont en fait que des contrats de divorce.
Intéressant.
Parce qu'ils ne prévoient pas qui garde les enfants pendant qu'on est marié, qui fait la vaisselle, qui fait le lit, qui nettoie, qui met de l'essence dans l'auto. Ça ne prévoit rien de ça.
Mm-hmm.
Tout ce que ça prévoit, c'est que comment vous allez gérer le divorce, la séparation.
Mm-hmm.
Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès qu'on rentre dans ce genre de relation, la société québécoise, la société contemporaine nord-américaine reconnaît que votre mariage ne va pas durer.
Waouh, c'est tellement vrai.
C'est un fait.
Oui.
Et vous-même qui rentrez dans cette relation, vous acceptez, parce que vous signez ce contrat, ou qui est un contrat implicite, qui est le contrat, le patrimoine familial, par exemple, qui est un contrat qui vient avec, qui est implicite, donc vous ne pouvez pas dire, moi, j'en veux pas.
Mm-hmm.
Ben, vous acceptez que votre mariage ne va pas durer.
Mais on ne peut pas faire autrement.
Comment on ne peut pas faire autrement?
On ne peut pas dire non, c'est ce que tu viens de dire.
Non, on ne peut pas dire non. Parce qu'on ne peut pas dire non, c'est que on est mieux de ne pas se marier, parce que de toute façon, ça dit que ça va péter. D'accord? C'est écrit dans la loi. Si c'était un contrat de mariage, ça ne prévoirait pas que ça va arrêter. D'accord? Autre concept qu'il faut laisser de côté, pour le meilleur et pour le pire. Non, mais attends.
Oui.
Sérieux.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Non, mais attends, on va s'embarquer dans une relation pour le meilleur et pour le pire.
Mais c'est pas ça.
Mais jamais. Si le pire, alors là on va arrêter de rire toi et moi, et notre technicienne aussi, parce qu'on trouve ça drôle, mais là je vais rentrer dans une zone où c'est pas drôle. Si le pire, c'est pour une femme d'être victime de violence conjugale,
ouais, non.
Est-ce qu'elle va rester?
Non.
Non, mais c'est ça le pire,
ouais.
Qu'un homme peut offrir. Le pire aussi, c'est qu'un homme qui va appauvrir sa famille, il va dépenser l'argent de la famille au casino, etc. Mm-hmm. C'est ça le pire. Est-ce que parce qu'on s'est engagé pour le meilleur et pour le pire, puis qu'on va rester dans le pire?
Mais souvent, le pire, c'est souvent pensé comme on a des difficultés financières, pas parce que la personne a joué, mais bien parce qu'il y a quelque chose qui arrive qui est hors de notre contrôle.
Souvent, le pire, c'est de dire que, bon, l'autre est malade, oui. etc. Ben exact. Là, ben, OK, oui. Je deviens aidant naturel
exact.
Pendant les 30-40 prochaines années. Wow! OK, c'est beau, mais il n'y a personne qui aime ça.
Oui, c'est sûr.
Il n'y a personne qui aime ça.
Mais il n'y a personne qui aime non plus faire plein d'affaires. Ça ne veut pas dire que la relation n'est pas...
Donc,
Mais le pire peut être différentes facettes du exact. Pire. Mais voilà des facettes sur lesquelles on ne peut pas dire que les gens vont être dans un mariage ou dans une relation pour le meilleur et pour le pire. Non. Il y a une expression créole qui, pour moi, je l'ai utilisée à plusieurs reprises dans mes cours, qui, pour moi, est fondamentale pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Mm-hmm. En créole, on dit « deux mecs pas frits ».
OK? Oui, je sais de quoi tu parles.
« Deux mecs pas frits » veut dire que on ne met pas deux pauvres ensemble. Mm-hmm. D'accord? Mm-hmm. Bon, à deux pauvres ensemble, on va nulle part. Donc, nous sommes dans une société capitaliste où un des éléments de notre démarche, c'est l'ascension sociale. La relation de couple a pour objectif de nous faire monter dans l'échelle sociale, mm-hmm. pas descendre. Mm-hmm. Et quand on va se retrouver avec dans un couple où un ou l'autre nous tire vers le bas, ben c'est sûr qu'on lâche tout ça là. Mm-hmm. Okay? La relation de couple, le mariage, l'union de fait, tout ce que vous voulez, c'est une relation d'affaires. Et en Haïti, dans une chanson de Timano, on parle de mariage d'intérêt. Mmh. D'accord? Je dirais que c'est très caricatural de parler de mariage d'intérêt, mmh. mais en fait, le mariage est basé sur des intérêts. Okay? Donc, on ne va pas rentrer dans une relation avec quelqu'un. Et bon, allons-y. Mmh. Tomber en amour avec quelqu'un. On ne tombe pas en amour avec des pauvres, là.
Ça dépend.
Ouais, OK. Pour combien de temps?
Mais par exemple, quand la personne n'a pas fini ses études, puis qu'elle est en train d'étudier, bon, elle est endettée, disons qu'elle veut devenir médecin. OK? Mais elle est endettée pour l'instant. Donc, elle est pauvre, considérée comme pauvre. Mais éventuellement, elle va devenir riche.
Ah! Il y a donc une perspective de richesse.
Okay.
Mais le gars qui est sur
le bien-être
sur des caries, là, sur bien-être, qui est sur le BS, qui est en train de quémander, là, mm-hmm. il est beau comme un cœur, là. Ok. Qui veut tomber en amour avec?
Je comprends.
Le clochard là qu'on retrouve là près du palais des congrès là dans le refuge de jour là, mm-hmm. qui veut tomber en amour avec? C'est pourtant il a un âme, il est beau, il est tout, etc. Mais on n'est même pas intéressé à lui parler. Donc c'est pas vrai ça. C'est pas vrai qu'on tombe en amour avec n'importe qui. Mm-hmm. On tombe en amour avec des gens qui nous permettent d'avancer.
Mais il y a cette pensée ou cette philosophie où les gens disent, ben, on veut, la plupart du temps, maintenant, surtout avec les femmes qui sont beaucoup plus professionnelles, on veut comme l'homme déjà arrivé, qu'on devrait peut-être espérer qu'il puisse arriver là où on espère qu'il soit. Je ne sais pas si je suis claire dans mon message.
T'es pas claire.
Mais souvent, OK, on dit, ben, laisse-moi le temps de devenir la personne que je dois être.
Oui, mais ça, c'est si on a le temps. Parce que l'ascension sociale, ce n'est pas quelque chose qui attend. Donc, ce sont des opportunités qu'on prend pour devenir, pour passer à la classe moyenne, pour acquérir une maison, acquérir un chalet, s'enrichir, etc. Alors, les gens ne sont pas à la recherche de s'enrichir, ils sont à la recherche de la sécurité financière.
Oui.
Donc, c'est-à-dire que cette sécurité financière, l'autre peut nous amener des outils qui nous permettent justement d'avoir cette sécurité financière. Donc, tant mieux si on aime. Et tant mieux si on aime pendant longtemps. Mm-hmm. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, au Québec, la durée de vie d'un mariage, un mariage célébré, l'état civil, etc., la durée médiane d'un mariage au Québec est de 5 ans.
Wow.
D'accord? Donc, ça, c'est important de dire c'est quoi une durée médiane. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est pas la moyenne.
La moyenne, OK, c'est pas la moyenne.
C'est pas la moyenne, c'est la médiane. Ça, la médiane, ça veut dire qu'on met tous les mariages qui ont été faits pendant l'année sur mm-hmm. une ligne, mm-hmm. puis on prend celui qui est en plein milieu.
OK.
Celui qui est en plein milieu, au bout de 5 ans, il va être fini. Ça veut pas dire qu'il y a pas des gens qui sont mariés pendant 60 ans.
Oui.
D'accord? Mais à 5 ans, c'est fini. Au Canada, particulièrement au Canada, ça a déjà été jusqu'à 11 ans.
Oui, habituellement, 13 ans.
D'accord? Donc, ça veut dire que c'est pas pour rien qu'on a mis en place des mécanismes pour gérer la fin du mariage.
Oui.
C'est parce qu'il y en a beaucoup qui se terminent.
Of course.
Oui. Regardez au Québec, encore des choses, des mythes dont on s'est débarrassé au Québec. On est quand même une société extrêmement en avance sur le reste de la planète, hein, je vous le dis. Mm-hmm. Avant, moi, ma mère, qui est haïtienne, s'appelait Madame Boiron.
Mm-hmm.
Puis le nom de mon père.
Exact.
Ici au Québec, essayez ça pour voir. Ça ne marche plus, ça.
Oui.
D'accord? C'est fini, là, de porter le nom du mari. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'on va finir par perdre notre monde. On va finir par perdre notre monde.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, perdre notre monde?
Ben, madame s'appelle Tremblay aujourd'hui. L'année prochaine, elle s'appelle, son nom de jeune fille est Tremblay. L'année oui. prochaine, elle s'appelle Madame Boileau.
Oui.
Après ça, dans 3 ans, elle s'appelle Madame Trudeau. Ben, on finira pas, là. D'accord?
OK, je comprends. Ben,
Tremblay, Boileau, Tremblay, Trudeau, Tremblay. Mais non, ça marche pas. On va finir par perdre notre monde. On va finir par...
C'est être confus.
Confus, d'accord? Dans la statistique québécoise, on sera plus qui est qui. Donc, c'est fini ce genre de choses, d'accord? Il y a des choses, c'est-à-dire que moi, comme sociologue, c'est que je suis content d'être québécois.
Mm-hmm.
Je ne sais pas si d'autres sociétés évoluent à cette vitesse-là, mais la société québécoise évolue à une vitesse tellement rapide.
Est-ce que c'est de l'évolution?
Oui, c'est de l'évolution, parce que, justement... Essentiellement, ce que ça exprime,
mm-hmm.
dans la majorité des cas, c'est surtout les droits des femmes.
Wow.
Donc, et le mariage, par exemple, quand oui. on regarde la situation au Québec, mm-hmm. j'ai les données ici quelque part,
mm-hmm.
Le Québec est probablement, au Canada, c'est sûr, mais c'est la société où on a le moins de mariages.
Oui.
On y va plutôt avec des unions de fait.
Exact.
D'accord? Ailleurs, il y a une différence d'à peu près 10% là, entre le Québec et le reste du Canada là, mm-hmm. au niveau du taux de personnes qui sont en union de fait.
Mm-hmm.
Donc, ça aussi, ça nous permet de distinguer le Québec comme société, de dire que nous ne faisons pas les choses de la même manière.
Mais est-ce que c'est une bonne chose?
Si vous avez une population de 9 millions de personnes,
mm-hmm.
où 63% des unions sont des unions de fait,
oui.
c'est que là, on est au-dessus du 50% là, de la normalité.
Oui, mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça rend les familles plus solides? Est-ce que c'est des relations qui sont durables?
Alors, ce qu'on va voir dans les statistiques, c'est que les personnes qui sont mariées divorcent plus que les gens qui sont en union de fait vont se laisser.
Intéressant.
D'accord? Et ce qu'on va aussi voir comme statistique, c'est que les personnes qui étaient en union de fait, qui se sont mariées, vont se séparer après.
C'est quoi? C'est ça que je trouve un petit peu comme bizarre ou bien... J'ai de la misère à mettre un mot là-dessus, mais de comprendre qu'ils sont ensemble depuis des années. Dès mm-hmm. qu'ils se marient, ils se divorcent. C'est quoi l'objectif? C'est quoi le problème?
C'est pas toujours facile à expliquer ça, mm-hmm. parce que parfois ça peut rentrer dans l'individualité.
Mm-hmm.
Mais c'est pas là où on a le plus de soucis au Québec, je dirais. Je dirais que on se rend compte aussi, parce que là on peut aller avec d'autres statistiques, c'est que les familles recomposées
oui.
vont divorcer plus vite que tout le monde.
Okay. Même s'ils étaient en union de fait pendant des années?
Oui. Les familles recomposées sont essentiellement, là où le taux de divorce est le plus élevé, c'est quand il s'agit d'une femme qui était mariée, donc divorcée,
oui.
avec enfant, qui se marie avec un homme qui n'a pas eu d'enfant et qui est à son premier mariage.
Voilà.
Okay? Là, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas.
Et là, la variable qu'on analyse dans cette statistique, c'est la responsabilité des enfants.
Mm-hmm.
Donc, l'homme qui n'a pas eu d'enfant ne veut pas nécessairement élever les enfants de quelqu'un d'autre.
Oui.
D'accord? Donc, c'est des réalités comme ça qu'on voit au Québec. Est-ce qu'on évolue? Moi, je suis persuadé que oui, on évolue comme société parce que, essentiellement, la façon qu'on gère les unions de couple
mm-hmm.
au Québec, ben, c'est essentiellement pour préserver des droits ou réclamer des droits pour les femmes.
Mais est-ce que justement, dans cette démarche, les femmes prennent tellement de place que les hommes perdent la leur?
On met souvent sur, et puis je trouve ça un peu prétentieux de dire ça, que plus les femmes ont des droits, plus c'est une attaque à la masculinité, etc. Bon, je trouve que c'est souvent des discours qu'utilisent les populistes, particulièrement en Europe, avec des discours misogynes, etc. Il faut vraiment être pas sûr de soi, là, que si une femme a plus de pouvoir, qu'on devienne moins homme pour autant, là. Ça, c'est des discours que tient Éric Zemmour en France, par exemple. D'accord? Que Éric Zemmour est reconnu comme un raciste, un misogyne, un homophobe, puis toutes les autres phobies qui viennent avec, il les a tous. Wow. Donc, c'est pas une réalité. Mm-hmm. C'est pas une réalité. Ce sont des discours politiques qui sont payants, mais c'est pas vrai que parce que des femmes ont des pouvoirs, puis que nous, les gars, tout d'un coup, là, on devient... Éric Zemmour avait dit que les femmes françaises sont en train de féminiser les hommes au point où les enfants français vont vivre dans des familles sans père. C'est-à-dire que le père qui est dans la maison n'est même pas un homme.
Il est comme absent.
Non. Il n'assume pas sa masculinité. Donc, bon, Zemmour est un masculiniste, un faux masculiniste qui raconte à peu près n'importe quoi parce que c'est payant politiquement. Mm-hmm. Mais ce n'est pas une réalité qu'on peut démontrer scientifiquement que parce que les femmes ont des droits, que les hommes en perdent. Ce n'est pas vrai. Mm. Les hommes ne perdent pas des droits parce que les femmes en gagnent. De toute façon, elles ne gagnent pas des droits. Elles ne font que réclamer ce que tout humain a droit d'avoir.
Voilà. Mm-hmm. Voilà. Wow, c'est tellement intéressant. Écoute, je me sens à l'école. Mais on va continuer sur la même lignée. Mais j'aimerais te poser la question suivante. Quand on parle de mariage, de relations conjointes faites, ou bien union libre, comme on parle de friends with benefits, tu sais, je sais pas comment le dire en français, mais c'était ce qui me venait le plus. Donc, on parle de relations sans attachement, sans engagement. Qu'est-ce qui est... Là, je mets plusieurs titres, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui existent. Quelle relation, d'après tes expériences et tes connaissances, est la plus satisfaisante pour l'un et l'autre, c'est-à-dire pour l'homme et la femme?
Mais d'abord, je pense que c'est individuel. Oui. Que chacun peut décider qu'une relation est satisfaisante. Mais dans une société... Mm-hmm. Une société est quelque chose de dynamique, c'est pas quelque chose de statique. Mm-hmm. Donc, d'une société à l'autre, on va voir comment ce genre d'union va se développer. Et le Québec est un beau laboratoire pour ça, parce que, justement, on voit comment ça se développe. Juste un exemple. Mm-hmm. En 1890, au Canada, le taux de divorce était de 5 %. En 1920, 18 %. Wow. En 1950, 30 %. En 1970, 50 %. Ça veut dire que c'est une remise en question de l'institution même du mariage. Mm-hmm. Et si je peux compléter, si la tendance se maintient, mm-hmm. 67 % des couples qui sont mariés au moment où on se parle,
oui.
D'accord? 67 % des couples qui sont mariés au moment où on se parle vont divorcer. Avant 2030.
Wow. Why? Pourquoi?
Parce que le mariage est une relation d'affaires. Quand la business... Il y a des entreprises qui font faillite. Le mariage, c'est une entreprise. Le couple peut faire faillite. L'union, la famille, le ménage qu'on appelle, en sociologie, on appelle ça un ménage. Mm-hmm. C'est-à-dire, le ménage, c'est pas juste les deux personnes... Parce qu'il faut oublier les deux personnes, c'est le foyer, c'est les biens, c'est les investissements, c'est tout ça.
Mais
ça fait faillite parfois.
Mais il n'y a pas ça dans le conjoint de fait, c'est la même affaire. C'est juste le mot qui n'est pas là.
Oui, mais eux aussi vont faire faillite. Plus tard, pour toutes sortes de raisons.
Okay.
C'est vrai qu'il y a le poids de l'obligation légale de dire « nous sommes mariés oui. », etc. Bon, t'es ma femme, t'es mon mari et tout. C'est une espèce de sentiment d'appartenance, un objet.